Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est la rentrée pour Cinérama et c'est un peu la rentrée aussi des films dans les salles. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Alors, on n'aura pas de blind test, hein, comme c'est un peu la coutume pour l'émission, mais on aura une interview et puis un gros plan. Le gros plan, ce sera sur Diane Kruger, qui est à l'affiche de Vision. Et puis, l'interview, ce sera celle de Léa Fener pour Sage-Femme, film qui était à la télévision et qui ressort dans les salles de cinéma. Quant à toi, eh bien, c'est un film britannique.
C'est ça. Moi, je vous amène dans une période pré-Brexit. C'est pour un automne à Great Yarmouth.
Et on commence. Après Boîte Noire qui avait bien marché, Ian Gosselin revient avec un thriller. Ce thriller, c'est Vision. Et c'est Diane Kruger donc, qui est à l'affiche. Et c'est l'occasion pour Marine de revenir sur sa carrière.
Bah oui, c'est le film. Et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Vous voulez toujours sur 777?
Oui.
Commandant de bord, le courrier depuis 2 ans, c'est bien ça?
Estelle mène une vie organisée, maîtrisée même, mais à 100 à l'heure. Elle est pilote de ligne et entre 2 vols, long courrier, elle ne se laisse aucun répit, entraînant son corps et son esprit pour rester la meilleure et ne s'octroyant que trop peu de sommeil. Guillaume, son mari médecin, essaie tant bien que mal de canaliser ses insomnies, mais Estelle accumule trop de fatigue lorsqu'un jour, elle croise à l'aéroport Anna, une photographe avec qui elle a eu une romance passionnée 20 ans auparavant. C'est le point de départ d'un cauchemar éveillé dans lequel Estelle va lentement glisser entre hallucination et réalité.
Toi, comment tu vas?
Je suis bien contente d'être sur Terre un peu.
Vous dormez correctement en escale?
Oui.
Left heel cut off, confirm.
Vous récupérez facilement?
C-40 knot.
Correct.
Oui, j'adore ce style de vie.
Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle?
Non.
Bonjour, Estelle.
Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, à la tour ravagée, et elle a foutu le camp.
Je sais pas comment font les gens.
Pour oublier? La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé.
Vision, avec ses paysages du sud de la France et ses menaces qui semblent poindre sous la surface de la Méditerranée, appartient à ce registre du thriller qu'on pourrait qualifier d'ensoleillé, un genre dans lequel le cinéaste Ian Gosselin, dont c'est le 4e film, s'était déjà démarqué avec Un homme idéal, un film dans lequel Pierre Niney, un jeune homme banal, s'appropriait les écrits et le talent d'un autre écrivain et s'avérait prêt à tous les crimes pour masquer cette usurpation. Dans Vision, Ian Gosselin filme à nouveau le basculement de son personnage principal, un personnage que l'on pourrait qualifier lui aussi de banal, si ce n'est qu'elle conduit des Boeing 747 quand même. Bien vu de la part du cinéaste d'accoler ainsi à son héroïne un métier rarement montré au féminin dans la vie ou dans la fiction. En même temps, on ne peut que constater de la part de Ian Gosselin une petite obsession pour les avions, puisque son précédent film, toujours avec Pierre Niney, s'appelait, on le rappelle, Boîte Noire et prenait place dans les hautes sphères de l'aviation. Alors personnellement, aucun des deux films précédents de Ian Gosselin ne m'a passionné. J'ai toujours trouvé que la mise en scène était peu inspiré et que ces quelques expérimentations visuelles manquaient de finesse et de sens. Vision est un film ambitieux qui s'apparente surtout à pas mal d'esbroufes, avec un point de départ assez cliché de femme qui ne sait plus si elle sombre dans la folie ou si elle est victime d'un complot. C'est une idée intéressante que de lui avoir imaginé une ancienne relation amoureuse lesbienne, mais quel dommage d'avoir écrit un personnage d'amante aussi caricatural, à savoir une photographe espagnole perfide et sexy, à l'accent bien prononcé. On regrette d'ailleurs que Marta Nieto écope d'un rôle qu'on croirait tout droit sorti d'un thriller américain ringard des années 90, Marta Nieto que le public français avait découvert dans l'incroyable Madre de Rodrigo Sorogoyen. Et à ses côtés, eh bien, Mathieu Kassovitz, joue avec une sobriété bienvenue le mari dévoué. Heureusement, Diane Kruger, que l'on n'avait pas vue dans un premier rôle depuis un moment, est très investie, que ce soit physiquement, puisqu'elle déploie ici à 45 ans un véritable corps d'athlète, d'ailleurs souvent filmé dans l'effort, que ce soit émotionnellement ou techniquement, car on sent que la comédienne a préparé ce rôle de pilote de ligne avec méticulosité.
Anna, il lui est arrivé quelque chose.
Quoi, parce que t'as eu un mauvais rêve ? S'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout.
Ça fait 10 jours qu'elle a disparu.
Apparemment, quelqu'un l'aurait vue à Tokyo.
La boule force, tu peux pas voler.
Vous récupérez facilement.
Estelle !
Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle ?
Personne t'aimera comme moi.
Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser.
Vision, c'est le 47e film de Diane Kruger, une actrice que tout le monde connaît, mais pour qui finalement les gens ont du mal à citer davantage que quelques noms de blockbusters. Vous savez sûrement qu'elle a tourné dans la trilogie Benjamin Gates aux côtés de Nicolas Cage, mais saviez-vous que la comédienne allemande de 47 ans a également tourné chez Denis Arcand, chez Agnieszka Holland ou encore Robert Zemeckis? Quand on lui en parle, eh bien Diane Kruger dit tout simplement que si une partie de sa filmographie demeure confidentielle, c'est parce qu'elle n'a pas forcément été dans les bons films des bons auteurs, ceux qui ont marché, comme par exemple le dernier Neil Jordan, Marlowe, dans lequel elle interprétait en 2022 et face à Liam Neeson une intrigante digne d'un film noir, un échec aussi bien critique que public. Une humilité que Diane Kruger tient de sa première vie, puisqu'elle a été mannequin pendant 10 ans, après être partie seule à Paris à 15 ans, une période dont elle parle comme ayant été très difficile, avec les humiliations et les dangers qu'on imagine, avant que le métier de comédienne ne se présente à elle comme une libération, un épanouissement artistique qu'elle recherchait déjà au travers de la danse qu'elle a pratiquée à un haut niveau durant son adolescence. Et figurez-vous que c'est Luc Besson qui va lui conseiller en premier de faire du cinéma, puisqu'il la castera, fidèle à son amour un petit peu obsessionnel pour les jeunes mannequins filiformes, pour le rôle de Mila Jovovich dans Le Cinquième Élément. Évidemment, elle ne sera pas choisie, comme on le sait. Mais son premier rôle au cinéma, ce sera devant la caméra de son mari, Guillaume Canet, dans le film Mon Idole, dans le rôle de la femme de François Berléand, un producteur de programmes télé de génie aux intentions un peu troubles.
Bon, voilà. On n'a pas eu le temps d'y réfléchir énormément, mais on t'aime beaucoup et on voudrait te garder.
Me garder ? Ah, mais moi, je vais peut-être pas pouvoir venir tous les week-ends.
Ah non, non, pas tous les week-ends, tout le temps.
Quoi, vous voulez que je vive avec vous ?
Oui.
Oui, exactement. Tu vis à la maison, tu nous suis dans tous nos déplacements, voyages, etc. Tu sors Clara quand elle en a envie, vous allez en boîte, dans des soirées, enfin des trucs de votre âge.
Par contre, je vais te demander de faire un petit test HIV. Enfin, je veux bien être cool, mais il faut quand même que ça reste sans danger, tu comprends?
Voilà, quant à moi, c'est simple. Du fun, du fun, du fun. Je t'en demande pas plus, mais pas moins. Si tu m'emmerdes, tu dégages.
Non, mais je crois pas être la bonne personne, moi.
Oh, mais attends, avant de répondre, là, j'ai pas fini. Je te propose 8000 euros par mois, plus une voiture de fonction, et un portable qui sera à ta disposition et à la mienne si j'ai besoin de te joindre.
Mais je suis pas à vendre, monsieur Broustal. Enfin, j'apprécie beaucoup votre femme, j'ai une grande admiration pour vous, mais il y a des limites. Quoi, vous voulez que je sois votre bouffon, quoi?
Mais non, tu vas fort. Plutôt. Homme de compagnie.
Il y aura par la suite, bien sûr, le film 3 qui la révèle à une échelle internationale avec un rôle de taille, puisqu'elle y joue Hélène de Troie, la plus belle femme du monde selon Homer lorsqu'il a écrit l'Iliade. Une super production signée Wolfgang Petersen où elle côtoie les plus grandes stars de l'époque, Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana. Mais en parallèle, Diane Kruger tourne Frankie, son premier film avec la réalisatrice française Fabienne Berthaud, qui marquera le début d'une collaboration artistique et humaine de 20 ans. En effet, Frankie, qui raconte le parcours d'une mannequin rendue dépressive par l'industrie déshumanisée de la mode, devait initialement se tourner avec une comédienne française connue, mais Fabienne Berthaud décide de la remplacer au pied levé par Diane Kruger, qui elle-même est encore mannequin à l'époque, hein, nous sommes en 2005, contre l'avis de ses producteurs qui finiront par abandonner le projet, laissant la cinéaste s'autoproduire. Le tournage de Frankie s'étalera donc sur 3 ans et Diane Kruger, fidèle à son engagement, reviendra tourner jusqu'à ce que le film soit terminé, bien qu'en parallèle, sa célébrité augmente de façon conséquente. Elle tournera avec Fabienne Berthaud par la suite 2 autres films, Sky et Pieds nus sur les limaces, aux côtés de Ludivine Sagnier et d'un certain Denis Ménochet.
Pas trop vite, sinon tu sais ce qui arrive.
Bougez, bougez, bougez.
Petit con, sortez! Ça va pas te faire baiser par n'importe qui comme ça?
Oh, bon, je m'amuse.
T'appelles ça t'amuser, toi?
Bah oui.
Tu vas voir, il va t'arriver des histoires un jour, Lily. C'est dangereux.
Je vois pas ce qu'il y a de dangereux.
Arrête.
Moi, j'ai un corps, c'est pour m'en servir. Hein. Sinon, pourquoi j'en aurais un? Très drôle, ça. Allez, vas-y, on va rentrer à la maison.
Mais ce sera In the Fade de Fatih Akin, son premier rôle en allemand tourné en Allemagne en 2017 qui marquera un tournant dans sa carrière avec un rôle de mère qui perd son fils et son mari dans un attentat néo-nazi et décide de se venger. Diane Kruger, qui est trilingue, hein, avait déjà bien évidemment joué en allemand mais dans un film hollywoodien, c'est son autre grand succès international avec 3, Inglourious Bastards de Quentin Tarantino, un film dans lequel elle interprétait une comédienne slash espionne allemande, un rôle culte mais plus attendu sans doute que son rôle dans In the Fade, un rôle qui lui a demandé 6 mois de préparation au cours duquel elle a fréquenté des groupes de parole autour de personnes endeuillées, un rôle qui également lui offrira donc le si convoité prix d'interprétation féminine à Cannes en 2017.
Est-ce que votre mari était engagé politiquement? Est-ce qu'il levait des fonds pour des associations?
Non, mon mari n'était pas engagé politiquement.
Avait-il des ennemis?
Quel genre d'ennemis?
Madame Sekerchi, une bombe a explosé devant le bureau de votre mari.
Qu'est-ce que vous dites?
Il est probable qu'il ait été la cible de l'attentat. Où est-ce que vous avez vu votre mari et votre enfant pour la dernière fois?
Cet après-midi, j'ai déposé Rocco au bureau de mon mari.
Vous n'avez rien remarqué de particulier?
Non. Si, j'ai vu une femme laisser son vélo juste devant le bureau. Je lui ai parlé parce que j'ai vu qu'elle l'avait pas attaché. Il était tout neuf, son vélo. Il avait un petit coffre sur le porte-bagages, comme sur les motos, vous voyez.
Vous nous aideriez à établir le portrait robot de cette personne et consulter avec nous notre fichier de suspect?
Tu veux voir mon enfant et mon mari?
Ce que vous verriez n'a plus forme humaine. Les corps ont été déchiquetés, Madame Sekerchi.
Un rôle de mère toxicomane qui va céder à sa propre violence et dans lequel Diane Kruger tord son image lisse, chose qu'elle a fait bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Saviez-vous par exemple qu'elle avait interprété Asia Argento? Oui, oui, dans le film G. Telluroy de Justin Kelly, ou encore une handicapée droguée aux médicaments opioïdes dans Tout nous sépare de Thierry Cliffa. Elle devrait prochainement à nouveau nous surprendre puisqu'elle vient de terminer The Shrouds, le nouveau film de David Cronenberg, dans lequel elle joue pas moins de 3 rôles en même temps.
Nous parlions de Vision, film de Yann Gozlan qui est en salle depuis le 6 septembre. Après un passage à la télé au printemps, Sage-femme de Léa Fener est sur les écrans, c'est l'interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Ce n'est pas la première fois que cela arrive à un film. Il est produit par Arte, diffusé à la télévision et sort ensuite au cinéma. Alors on connaît la chronologie des médias qui nous force à attendre quelques mois avant de voir un film passant sur les écrans à la télévision. Et bien l'inverse est aussi valable. Sage-femme, qui a eu un beau succès en streaming sur Arte, va vivre une carrière au cinéma et c'est tant mieux. C'est l'occasion de l'apprécier. Il s'agit d'une commande faite à Léa Fener par Gécofilm et Arte, avec deux contraintes fortes: dresser le portrait d'une jeunesse contemporaine et travailler avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. La réalisatrice décide de planter sa caméra dans un service de maternité qui reçoit des cas pathologiques. Tout juste diplômée, Sophia et Louise débutent comme sages-femmes dans cette maternité. Alors si l'une a un peu de mal, l'autre prend ses aises, mais à mesure que le film avance, eh bien c'est le contraire qui va se produire. De quoi pointer un métier déstabilisant qui consiste à accompagner la vie et parfois la mort. Alors sans le vouloir, avec sa caméra épaule, Léa Fener, qui nous fait vivre des accouchements si rares au cinéma, eh bien fait glisser son film vers le suspense, surtout au travers d'un de ces personnages qui doute. Alors pour vérifier que tout ce que je voyais était bien vu, j'ai toqué chez ma voisine qui est sage-femme. Alors elle a vu le film et elle m'a indiqué eh bien, qu'il correspond parfaitement à son métier, avec ses joies, ses espérances, ses doutes et ses problèmes. C'est un film social, politique et sensible. Si vous ne l'avez pas vu sur Arte, eh bien, vous pouvez maintenant aller voir au cinéma. On écoute Léa Fener, la réalisatrice.
On est les nouvelles sages-femmes.
De toute façon, ici, la moyenne d'âge, c'est genre 26 ans. Après 30 ans, dans le métier, t'es dead.
Ici, t'as la pouponnière. Là, le laboratoire pour les IMG. Ici, les toilettes, bon, si un jour t'as le temps de pisser.
Ça va aller. On y va, la tête haute, et on assure.
Ben, l'avenue vers ce film, elle s'est fait par plein de chemins. D'abord parce que c'est une commande d'Arte, une commande où on m'a proposé en fait de travailler avec des jeunes comédiens du Conservatoire de Paris. Donc ma contrainte, ça devient l'âge des comédiens et évidemment le casting, mais aucune contrainte de sujet. Et moi, ce qui m'a touchée dernièrement sur cette jeunesse, sur cette tranche d'âge-là, c'est la jeunesse des sages-femmes que j'ai rencontrées lors de mes deux grossesses. Le fait qu'elles étaient à la fois très jeunes pour avoir autant de responsabilités sur leurs épaules, souvent très matures. Et j'avais envie à la fois de montrer ce métier qui me semblait méconnu, de montrer en fait aussi ses grandes particularités, comment c'est un métier qui a une grande puissance de relation, qui est au centre de sa pratique. Et en même temps, de me questionner sur comment, du haut de ses très jeunes âges, sur ses frêles épaules, cet hôpital public tient, et aussi comment elles arrivent à faire front avec cette tsunami émotionnelle qu'il peut y avoir en salle de naissance. Mmh. Voilà.
Ce que tu fais, t'es forte avec toute ta force.
Non, on n'est pas ensemble, là. On reprend.
Allez, on lâche pas, Fanny.
On est au niveau 3, ici. Réveille-toi, d'accord? On a toutes les pathologies les plus graves, on n'a pas droit à ce genre de conneries.
Ah! Et voilà, c'est parti pour une garde bien merdique.
Moi, j'ai commencé le tout début de l'écriture en rencontrant une quarantaine de sages-femmes en entretien. Il y a beaucoup de choses très fortes qui ont été déjà dites à ce moment-là. Et il y a à peu près une dizaine de sages-femmes avec qui on a eu énormément de plaisir à parler, de plaisir à se raconter, et qui deviennent vraiment des collaboratrices. Mais de A à Z, elles sont encore là, elles répondent aux interviews, et elles étaient là aux prémices du scénario, elles ont été là sur le tournage, elles ont été là sur le montage. Du coup, c'est vraiment plutôt essayer de se dire, je les ai estimées, je sentais qu'elles avaient aussi un cri d'alarme à faire passer, une envie de raconter ce que c'était l'âme de leur profession, et j'ai eu envie qu'on écrive ensemble.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On est venu accoucher.
Je suis venue accoucher, c'est moi qui accouche, d'accord?
C'est Julien, justement, le monteur, qui dit ça. Il dit, pour moi, en fait, c'est comme si la naissance, c'était l'essence même de la dramaturgie. Comme si c'était la première des histoires. Ça, c'est lui qui raconte ça. Il dit, et parce que, en fait, on est terrifié. On sait qu'un événement va arriver. Il va arriver. On ne sait pas s'il va arriver en bonne santé, s'il va arriver avec des soucis, s'il va arriver, s'il va être en vie. Il y a une très, très grande... Il y a un suspense qui est inhérent et que je n'avais pas autant... Moi, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Du coup, moi, je vois un accouchement, je me dis qu'il va bien se passer. Donc, alors que j'ai eu effectivement dans beaucoup de retours des gens, dès le premier accouchement, terrifiée à l'idée qu'il se passe quelque chose de mal. Donc je pense que la dimension vraiment de suspense, elle m'a un tout petit peu échappée. Là, j'ai vu un article du Monde qui disait « sueur froide en maternité ». Je disais « wow, quand même, je coquille en maternité ». Je dis « non, ça, c'était pas volontaire ». Mais je pense qu'en y réfléchissant, c'est ce que dit Julien est très juste. Il y a quelque chose en chacun de nous où il y a une tension très forte liée à cette idée de la naissance. Comme une espèce d'histoire ancestrale qu'on a tous, qui est là.
Je vous envoie une primi 36 semaines, 5 cm.
Je prends.
Non, toi t'as déjà 3 patients.
On en a tous déjà 3.
Merde, c'est moi.
Ok, d'accord, prends-la. Le problème, c'est l'hôpital. C'est ce système de plus en plus merdique qui fait qu'on n'est jamais assez nombreuses.
Elle a raison, on oublie totalement la dimension humaine de notre métier.
C'est pas si présent, en tout cas, l'espace de la maternité dans le cinéma. Parfois, c'est même carrément un grand absent. Enfin, notamment, peut-être on peut y revenir, mais sur la question des images d'accouchement, etc. Pour moi, déjà, il y avait l'idée d'être à hauteur de regard. Du coup, une caméra à épaule, c'est aussi une caméra qui est à hauteur de regard. Enfin, qui est à, parce que le regard, il est vraiment au centre dans une maternité, parce que c'est énormément de choses dans la relation se jouent à ça, comment on attrape le regard d'une femme, on lui dit qu'elle n'est pas seule et qu'on va ensemble traverser cette épreuve de la mise au monde. Enfin, ça, c'est vraiment très, très central dans une maternité. Et ça me semblait beau à sentir. Donc, il y avait cette idée de... Je pense qu'après le ballet de la caméra épaule, c'était aussi pour moi celui qui permet le plus de sentir ce ballet comme ça, très synchronisé, très particulier, très minutieux, des soignants, qui moi m'impressionne beaucoup, que je trouve assez fort, qui raconte quelque chose de cette solidarité à l'œuvre pour pouvoir faire acte de soin, et en même temps qui est l'endroit qui est aujourd'hui grippé. Parce que ce ballet, il va tellement dans tout... Enfin, il est très minutieux, il est très attentif, il y a quelque chose d'assez magique à voir ce corps collectif en œuvre, et en même temps, il est grippé parce qu'il n'a pas le temps du soin, pas le temps de s'arrêter, pas le temps de pisser, comme elle dit dans le film, pas le temps de respirer, et il y a quelque chose qui se grippe. Et du coup, je pense qu'il y avait cette envie-là.
Si je commence à me dire que je peux pas sauver tout le monde, autant changer de métier. Et moi, ce que j'aime, c'est la salle de naissance.
C'était Léa Fener, la réalisatrice de Sage-Femme, en salle depuis le 30 août. On se plonge maintenant dans l'atmosphère pré-Brexit avec un automne à Great Yarmouth.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Peu prolifique, à raison d'un film environ de tous les 5 ans, le cinéaste portugais Marco Martins nous envoie cette fois à Great Yarmouth, une ville côtière du comté de Norfolk en Angleterre. Alors on ne peut pas s'y tromper, le nom de la ville est même dans le titre du film, Un automne à Great Yarmouth. Alors petite précision qui a quand même son importance, le titre français est un petit peu étrange dans les choix de traduction car l'action se passe sur plus de 3 mois et va mordre donc jusqu'à l'après-Noël, ce qui fait que techniquement elle va au-delà de l'automne et se termine en hiver. Ensuite, le titre original Great Yarmouth Provisional Figures est bien plus révélateur sur l'intrigue et sur le véritable centre d'intérêt du scénario. Une provisional figure, c'est un chiffre provisoire. Or, il va être question d'une course à l'argent qui manque désespérément à ses protagonistes et pour leur vie de tous les jours comme pour leurs éventuels projets de vie, mais aussi de comptage de travailleurs immigrés portugais qui, en plus d'un certain nombre requis, sont littéralement considérés comme des numéros plutôt que des êtres humains. Alors si l'on compte le fait que le carton concluant, le film précise que l'histoire se base sur de nombreuses histoires réelles de ces provisional figures, le conseil avisé que je prodiguerai en cette période de rentrée scolaire serait celui de bien suivre vos cours d'anglais pour comprendre la valeur des mots.
Vamos pedir para mostrar os dentes, e depois as mãos, e depois os membros superiores.
Great Yarmouth Provisional Figures nous parachute dans une Angleterre morose et pas uniquement à cause de son temps généralement affreux. Le Brexit s'approche à grands pas et les conditions de travail pour les gens extérieurs à la Grande-Bretagne s'annoncent pire que d'habitude. Il faut dire qu'elles ne sont en temps normal pas très heureuses en ce qui concerne les personnages de notre film. On suit des immigrés portugais qui baragouinent avec difficulté deux mots d'anglais, qui sont destinés à travailler dans des abattoirs de volailles, un univers particulièrement difficile et même pour certains insupportable, mais indispensable pour leur survie dans ce pays qui n'est pas le leur. Pour faire le relais entre le Portugal et l'Angleterre, il y a Tania, notre personnage principal, affectueusement surnommée Maman, qui les accueille, les prend sous son aile, essaie de leur faire passer la pilule des conditions de vie austères comme elle le peut, en les aidant au quotidien. Elle est là pour aider avec les démarches administratives, les traductions, les dialogues avec les employeurs, la mise en place du travail, mais on se doute que l'abattoir n'est pas le point de chute ultime de Tania, qui nourrit un projet plus humain et ambitieux, celui d'ouvrir un jour un hôtel pour y accueillir des touristes du troisième âge, avec suivi des personnes, cours de danse, etc. Bref, quelque chose de franchement plus chaleureux. Alors on se doute que le chemin emprunté va être particulièrement compliqué, et surtout, comme dans tout bon drame social qui se respecte, va être cruel. Marco Martins se lance dans une voie toute tracée par les films de Franck Borzage comme L'Ange de la rue, où la main de celui qui l'attend va se faire broyer par la mâchoire d'une société égoïste, et où l'amour souvent pur émis par des héros ne trouve pas des échos favorables face à ses semblables bien plus rustres ou profiteurs. Alors attendez-vous donc à de la noirceur, beaucoup de noirceur, et ce même si la caméra de Marco Martins sait capter les lumières de la ville, comme dirait Chaplin. Malheureusement, pour les travailleurs, ils sont souvent mis à l'écart de ces lumières quand ils ne sont pas dévorés par elles dans des endroits comme les bars. En première ligne, il y a l'actrice Béatrice Bartada, que l'on retrouvera dans le diptyque Viver Mal, Mal Viver, de Joao Canio en octobre, qui porte le film sur ses épaules. Alors il faut dire qu'elle est quasiment de tous les plans, étant le lien entre tous les personnages et leurs problèmes créés ou à régler. La pauvre est mise à rude épreuve, tant la caméra donne l'impression qu'elle passe d'un plan à l'autre de 40 à 60 ans. C'était le prix payé pour le seul visage reconnaissable entre tous les autres immigrés, et donc à celui à marquer des fardeaux d'une vie injuste. Le reste du casting, lui, est lentement broyé par le sort réservé à leur rôle, pauvres ouvriers interchangeables qui sont associés dans la mise en scène aux animaux qu'ils tuent à la chaîne pour pouvoir subsister. Un film sombre, donc à la mécanique bien huilée et qui ne ménagera pas les plus faibles.
Un automne à Great Yarmouth est en salle depuis le 6 septembre. C'est le cas aussi du gang des bois du temple.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Ceux qui aiment Rabah Hammer Zaimush, le réalisateur qui avait fait Wesh Wesh, Qu'est-ce qui se passe en 2002, mais plus proche de nous Les Chants de Mandrin ou Dernier Maquis, savent que ces films induisent une puissance politique quand ils ne cherchent pas à réveiller les consciences. Alors c'est le cas aussi avec ce nouveau long métrage, Le Gang des Bois du Temple, qui nous place dans une banlieue dont on ne sait pas franchement où elle est, aux prises avec un groupe qui va braquer un riche prince saoudien. Si la résolution de l'affaire laisse à désirer, il nous laisse vraiment sur notre faim, le réalisateur ne cesse de promener sa caméra sur les personnages en se raccrochant à leur espace.
Ce sont 4 ou 5 qui viennent d'une cité qui s'appelle les Bois du Temple. Et ces jeunes se sont accoquinés avec 2 hommes plus âgés, bien chevronnés dans le milieu du banditisme.
Entre la Nationale 3 et l'autoroute A1. Bah, c'est les gars de chez nous, ça.
Guettez la tête du prince, les gars.
La tête du prince.
Abdulaziz Ben Khalifa.
Ah, la gueule qu'il a, regarde.
Notre fourgon est disparu. Oh, il y avait dedans des papiers sensibles.
Il y a une taupe parmi nous, alors, les gars.
Il n'y a pas de balance, il n'y a jamais de balance, Lorient. S'arrête, putain.
En lien avec ce groupe, un ex-militaire qui vient de perdre sa mère et qui a moins à perdre que les autres. D'une certaine manière, les autres ont tout perdu, leur désir, leur espoir et leur joie, comme s'ils avaient visé trop haut et s'étaient frottés à bien trop fort.
Tout ça, je l'ai fait pour nous. C'est tout pour moi, tout.
Je suis fatigué, bébé.
Dis-moi, toi, ce que t'inspire la beauté du jour. Vers moi que j'en respire un vrai chant d'amour, le temps suspend la fragrance d'un parfum très rare. Quel carcange en vacances soupire quelque part.
Il faut se laisser porter par ce film, pas toujours facile, il faut surtout dépasser le début tout en emphase avec un enterrement en chanson. Alors La Mort Rôde, le film commence par une disparition et se clôt sur une autre. Le Gang des Bois du Temple de Rabah Hammer Zaimush est en salle depuis le 6 septembre.
Alors,
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec au moins deux films français, le dernier film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions, film jouissif, et puis L'été dernier de Catherine Breillat, qui était en compétition à Cannes.
Et moi, ce sera un premier film, ce sera La Hija de Todas las Rabias.
Hasta la vista.